Ouais. Formidable, je vous l'ai dit. Il est effectivement 13h, c'est l'heure de retrouver Marine Le Génie pour Ma France. À demain, ciao.
À demain.
Ici, avec Marine Le Génie, Ma France.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ma France. Avec pour commencer les traditionnels vœux aux armées d'Emmanuel Macron. C'est en ce moment à Istres, le chef de l'État appelle à des efforts pour, je cite, puissant dans ce monde si brutal. Discours après un conseil de défense à l'Élysée ce matin sur l'Iran et le Groenland. Explication à suivre. Dans l'actualité, le procès d'une affaire qui avait à l'époque bouleversé l'opinion. Marvin est jugé à Blois pour tentative de meurtre sur son ex-compagne. Chloé est restée 2 mois dans le coma. Elle avait avant cela vainement tenté de porter plainte. Au programme également cette mauvaise nouvelle concernant le livret A. Son taux va encore baisser au 1er février. Et les Français qui n'ont pas confiance en leurs médias. Dans le journal des régions, ne manquez pas la rencontre avec DJ Baguette, oui, qui, comme son nom l'indique, nous fait danser dans les boulangeries. Et à 13h15, on s'engage. Si votre bonne résolution 2026, c'est de vous rendre utile dans une association, Elsa Dacosta, autrice d'un manifeste pour une culture de l'engagement, va vous y aider. Emmanuel Macron, devant les armées à Istres, il présente en ce moment, je vous le disais, ses vœux sur la base aérienne stratégique des Bouches-du-Rhône, ses vœux aux armées dans un contexte particulier cette année, sur fond de tensions géopolitiques au Groenland, en Iran, en Ukraine. L'année qui s'ouvre est une année pleine de défis. Nous sommes prêts, vient de déclarer Emmanuel Macron, et il faut que nous soyons prêts, dit le chef de l'État.
L'accélération des périls commande d'accélérer le réarmement de la France. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque. Voilà pourquoi j'ai souhaité, le 13 juillet dernier, avancer à l'année 2027 l'objectif initialement prévu pour 2030, d'atteindre un budget annuel de 64 milliards d'euros pour notre défense. Ainsi, en 2 mandats, le budget des armées aura été doublé.
Emmanuel Macron qui souhaite donc 36 milliards d'euros de plus d'ici 2030 pour les armées, dont 3,5 milliards d'euros dès 2026. Dès cette année, il demande qu'une actualisation de la loi de programmation militaire soit adoptée d'ici au 14 juillet. Vous retrouvez l'essentiel de ce discours, hein, toujours en cours à Istres, sur notre site ici.fr. Des vœux aux armées dans la foulée d'un conseil de défense qui s'est tenu en urgence ce matin à l'Élysée après l'annonce cette nuit du président de l'envoi de militaires français au Groenland face aux menaces de Donald Trump. Ils sont en chemin et d'autres suivront, selon le chef de l'État. Des soldats d'autres pays de l'OTAN sont également en chemin, dont l'Allemagne, la Suède, le Danemark. Alors que savons-nous sur ce déploiement français sur ce territoire convoité par les États-Unis, Mélodie Pépin?
Quelques hommes, une quinzaine, font partie de ce premier détachement militaire français, des chasseurs alpins, des spécialistes de haute montagne habitués au grand froid. Ils sont envoyés en mission de reconnaissance, tâter le terrain, préparer la logistique pour des manœuvres militaires plus étendues. Des Français aux côtés d'une poignée d'Allemands, de Suédois, de Norvégiens et de Danois, car il s'agit d'un exercice militaire européen à la demande du Danemark, qui a la souveraineté sur le Groenland, en renforçant la présence militaire de l'OTAN en Arctique. L'objectif est double, montrer aux Américains que les alliés font bloc pour défendre l'intégrité de ce territoire stratégique et envoyer un message à Donald Trump, pas besoin de conquérir le Groenland pour assurer la sécurité des États-Unis face à d'éventuelles menaces russes ou chinoises. Mais pour l'instant, tous ces efforts militaires et diplomatiques restent infructueux. Donald Trump a répété hier soir avoir besoin du Groenland et réaffirmé qu'il ne suffit pas de 2 traîneaux à chiens pour défendre le territoire.
Emmanuel Macron qui ajoute pendant ses vœux, questionnant en ce moment vœux aux armées à Istres, que l'équipe française sur place sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. L'ouverture d'une enquête après le décès d'une adolescente de 17 ans qui s'est suicidée mardi en gare de Mitry-le-Neuf en Seine-et-Marne. La famille de l'adolescente affirme qu'elle était victime de harcèlement scolaire et assure en avoir informé la direction de son établissement. Elle avait tenté de porter plainte 2 heures avant son agression. Aujourd'hui à Blois, devant la cour d'assises du Loir-et-Cher, s'ouvre le procès d'un homme jugé pour tentative de meurtre aggravée sur son ex-compagne. Chloé, violemment agressée en décembre 2022 à l'âge de de 24 ans. La jeune femme, qui garde des séquelles irréversibles, est restée sans réaction tout à l'heure à l'arrivée de l'accusé. Bonjour Coralie Moreau.
Bonjour.
Alors vous assistez à ce procès pour ici, un accusé qui n'a présenté aucune excuse ce matin, Coralie.
Non, dans le box des accusés, le jeune homme, corps sec, crâne rasé, ne semble pas conscient de la gravité des faits qui lui sont reprochés. La présidente de la cour décrit les 3 mois de relation entre Marvin et Chloé, 3 mois émaillés de violences physiques et verbales, de menaces, de harcèlement. « J'avais mes raisons », justifie-t-il, « je ne veux pas qu'on la fasse passer pour une femme martyrisée », poursuit-il encore sous les regards atterrés de Chloé et de ses parents. Chloé, 27 ans aujourd'hui, ne se souvient de rien de ce 13 décembre 2022, quand son compagnon lui écrase la tête à coups de pied avant d'être mise en fuite par un voisin. La jeune femme passera 2 mois dans le coma avec un pronostic vital engagé. 3 semaines avant le drame, elle avait décidé de quitter Marvin et la veille de l'agression, elle avait mis fin à une grossesse non désirée, l'objet de la colère, dira Marvin aux enquêteurs. Dans la salle, Chloé, silhouette frêle, les longs cheveux châtains, ne quitte pas des yeux son agresseur. Le jour où sa vie a basculé, elle avait alerté la police. En vain, le couple avait croisé la police municipale, la BAC, puis Chloé s'était rendue au commissariat de Blois pour déposer plainte. On lui avait alors répondu de revenir le lendemain.
Coralie Moreau, spécialiste police-justice ici, merci. Les policiers sont entendus cet après-midi devant la cour d'assises du Loir-et-Cher. Yannick Agnel sera bien jugé pour viol sur mineur et agression sexuelle. Décision de la cour d'appel de Colmar. L'adolescente qui accuse l'ex-champion olympique de natation et la fille de l'ex-entraîneur de Yannick Agnel, Lionel Horter. Elle avait à l'époque en 2016 13 ans. Yannick Agnel dispose de 5 jours pour se pourvoir en cassation. C'est un coup dur pour les épargnants. Le taux du livret A va reculer à nouveau au 1er février. Il va passer de 1,7% à 1,5%, très loin des 3% encore appliqués en janvier 2025. Le rendement du placement préféré des Français tiré vers le bas par le ralentissement de l'inflation, Sophie Ovigne.
Il y a un an, l'inflation était quasiment 2 fois plus importante qu'aujourd'hui. L'INSEE a annoncé ce matin qu'elle n'atteint même pas 1% en un an. Or, l'inflation entre dans le calcul légal du taux de rendement du livret A. Alors à Bercy, ce matin, on a fait marcher les calculettes. Le résultat du taux est tombé entre 1,4 et 1,5%. Sur recommandation de la Banque de France, le ministre de l'Économie a choisi l'arrondi supérieur. Petit geste pour les 57 millions d'épargnants qui possèdent un livret A. Mais Roland Lescure veut en réalité favoriser les ménages modestes éligible au livret d'épargne populaire. Donc le taux de ce livret, le LEP, est lui aussi légèrement abaissé. De 2,7, il passe à 2,5%, mais surtout il reste bien au-dessus du livret A, avec un point de plus. Objectif à inciter les 20 millions de Français qui pourraient posséder un LEP à franchir le pas au plus vite.
Les explications de Sophie Ovigne. C'est l'une des mesures pour répondre à la colère agricole. Le gouvernement va renforcer les contrôles sur les importations de produits alimentaires. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, s'est rendue à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ce matin. C'est là qu'arrive la majorité des fruits et légumes importés par avion en France. Édouard Marguier, vous avez assisté à une opération de contrôle pour vérifier que ces denrées n'ont pas été produites avec des pesticides interdits en Europe.
Des centaines de tonnes de fruits et légumes atterrissent ici chaque jour. En plus de la vérification systématique des documents, les douaniers prélèvent des échantillons pour les envoyer dans un laboratoire d'État situé à 50 km de Roissy. L'équipe dirigée par Frédéric Saltron analysera par exemple ces haricots verts venus du Kenya, mis sous scellés sous les yeux de la ministre.
Et on va rechercher un très grand nombre de pesticides. On a à peu près une palette de pesticides d'environ 400 molécules.
Vous avez noté que depuis la semaine dernière, j'ai interdit 5 nouveaux pesticides, donc ils sont désormais recherchés. Absolument. Au laboratoire de Massy.
Absolument, il faut partir dans notre palette et on est capable de répondre à ces nouvelles dispositions, absolument.
Les produits qui contiennent des substances interdites seront détruits. Annie Genevard veut compléter ce dispositif en créant une brigade de contrôle des produits importés, une centaine d'agents qui auront une mission très précise.
Qui contrôleront évidemment les camions et dans les magasins où se distribuent des produits importés. Vous voyez bien les actions des agriculteurs qui ouvrent des camions sur la route. Il faut organiser tout cela, c'est à l'État de conduire ces contrôles.
Annie Genevard donne un objectif de 3000 contrôles à effectuer dès cette année.
Et autre contrôle symbolique, celui-ci. Les agriculteurs arrêtent les camions au portail du port de Sète dans l'Hérault depuis 7h ce matin pour contrôler, d'ici l'origine de la cargaison et mettre en lumière la concurrence déloyale intenable avec les pays étrangers. Faites-vous confiance à votre radio, tiens, à votre télé, votre journal. Faites-vous confiance aux médias en général. C'est la question posée par le 39e baromètre La Croix, publié à l'occasion du festival Médias en scène qui se déroule en ce moment à la Maison de la Radio et de la Musique. Et la réponse, eh bien, c'est plutôt non, Mélanie Kuzelevitch.
Cette année, 6 Français sur 10 estiment qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Un chiffre stable par rapport à l'année dernière. Pour s'informer, les médias les plus utilisés sont toujours les journaux télévisés, les chaînes d'infos en continu, la presse papier, la radio, les médias en ligne et les réseaux sociaux. Mais globalement, moins que l'an dernier. En revanche, de plus en plus de Français, 42%, soit 5 points de plus que l'année dernière, s'appuient sur les influenceurs et les créateurs de contenu pour suivre l'actualité. Nouveauté cette année, l'apparition de l'intelligence artificielle. Environ 4 Français sur 10 l'utilisent pour s'informer. Mais paradoxalement, réseaux sociaux, influenceurs et intelligence artificielle restent en très grande majorité les médias qui suscitent le plus de doutes chez les personnes interrogées. Un autre baromètre publié aujourd'hui montre justement que 6 Français sur 10 sont favorables à la création d'un label pour les médias sur Internet pour lutter contre la désinformation.
Détail de ce baromètre sur ici.fr. Maroc-Sénégal, c'est du foot et c'est l'affiche de la finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui se tiendra dimanche. Les Marocains attendaient une qualification depuis 22 ans, d'où l'explosion de joie hier soir à la fin du suspense au tir au but face au Nigeria. Explosion de joie comme ici dans les rues de Rabat.
C'est beaucoup d'émotions, c'est le Maroc, c'est notre image.
Incroyable, les émotions, le Maroc c'est les émotions, c'est les tagines, le couscous, mais les émotions aussi les amis. Des lions de l'Atlas, c'est ça qu'on veut.
C'est une ambiance de feu aujourd'hui.
Et dis-moi quoi ?
Dis-moi vrai !
Dis-moi vrai !
Voilà, Rabat, où se tiendra la finale dimanche, Maroc-Sénégal, coup d'envoi 20h.
Ici, l'actu au cœur des territoires, Mafrance.
Le journal des régions avec ce geste de solidarité aujourd'hui pour les victimes de l'incendie de Cran-Montana, initiative d'une coiffeuse gardoise au nord de Nîmes. Vos cheveux seront directement envoyés en Suisse dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de perruques pour les grands brûlés. La coupe est offerte dans ce salon, mais il faut avoir au moins 25 cm à couper, Anouk Caron.
Eva a lancé un appel à la solidarité sur les réseaux sociaux et elle explique aussi sa démarche aux clientes qui viennent se faire coiffer chez elle.
C'est un don que j'ai lancé si la personne a plus de 20 cm à couper.
C'est fabuleux.
Émilie vient régulièrement se faire couper les cheveux ici.
Je trouve ça génial, cette initiative. J'espère que ça va être relayé, que beaucoup vont le faire. Moi, j'ai malheureusement pas beaucoup de cheveux là à couper.
Les cheveux collectés serviront donc à faire des perruques pour des victimes de l'incendie de Cran-Montana et elles peuvent avoir un rôle essentiel selon Eva, la coiffeuse.
Ah oui, ben son image déjà, se reconnaître parce que c'est des victimes qui vont se réhabituer, j'imagine, à leur nouveau moi, comme on pourrait dire, ou nouveau eux, c'est violent. Donc leur redonner un peu de sourire, un peu d'aide.
Et elle le précise, il y a aussi des perruques fabriquées pour les hommes.
Même si souvent on imagine que l'homme peut rester crâne rasé parce que c'est plus commun à la limite, mais non, il y en a qui ont besoin de cette image aussi. Hein.
Et elle insiste, la coupe pour le don de cheveux est gratuite.
On n'est pas là pour faire de l'argent sur ces personnes-là. C'est vraiment pour les aider.
Eva espère que cette initiative pourra inspirer d'autres coiffeurs.
Anouk Caron, ici Garloser. Si vous êtes intéressé pour faire un don de cheveux, le numéro d'Eva est sur notre site, ici.fr. De la région nîmoise au Calvados, dans le journal des régions, le Calvados, où la petite Elsa a écrit une carte de vœux à la police. Son rêve, c'est de devenir comiquaire, comme il est écrit sur cette carte. Touchée par ce joli courrier, la police lance un avis de recherche pour la retrouver, Nolwenn Lejeune.
Prénom Elsa, dernière trace connue, une adorable carte de vœux reçue à l'hôtel de police de Caen. C'est ainsi que les policiers cannais ont lancé leur avis de recherche sur leur compte Facebook. Ils expliquent qu'ils aimeraient beaucoup retrouver Elsa pour lui répondre et la remercier pour ce joli message qui a illuminé leur journée. La carte est rédigée, on l'imagine, par la petite fille elle-même. En témoigne l'écriture enfantine et l'orthographe « cher comiquaire de police » où le « c » sans la cédille ne donne pas le son « s ». Elle écrit également « quand je serai grande, vous me verrez sûrement, on fera des enquêtes ensemble. » Mais la petite Elsa n'a pas laissé son adresse. Alors pour lui répondre, les policiers invitent la jeune artiste ou ses parents ou toute personne qui la connaîtrait à les contacter.
Nolwenn Lejeune ici, Normandie. Allez, je vous l'avais promis, on termine en musique. À la rencontre du DJ star des boulangeries et des réseaux sociaux, DJ Baguette de son vrai nom, Dorian Gamon, ce drômois de 29 ans, mixe dans les boulangeries. Il a déjà fait une quarantaine d'établissements à travers tout le pays. Il était dans la Manche ces deux derniers jours. Son objectif, Anthony Rimbaud, mettre en lumière ce commerce de proximité par excellence.
À l'heure du goûter, DJ Baguette a installé ses platines entre les chouquettes et les galettes.
On est là pour danser, ramener le soleil dans la boulangerie.
Lunettes roses sur le nez, Dorian Gamon, alias DJ Baguette, est parti pour ambiancer les clients de la boulangerie.
Pour mettre en avant ce commerce, la boulangerie, c'est notre patrimoine. C'est vraiment ce qui représente le plus la France et c'est vraiment un lieu où toutes les générations se concentrent.
Et des plus jeunes aux moins jeunes, après un peu d'étonnement, on se trémousse une baguette sous le bras.
Ah, je trouve ça génial, moi.
Allez, hop.
Il mixe sur des platines, moi je mixe avec mon pétrin.
Fabien Le Poultier, le boulanger, lui aussi travailleur de la nuit, a rejoint la fête après sa sieste.
Dit, tiens, ça peut être sympa pour marquer le coup début d'année et puis créer un peu d'animation dans le bourg des pieux.
Et le patron, ça y est, il secoue un peu.
Et oui, le patron se secoue, mais pas Michel, cette cliente qui reste sur le pas de la porte.
Je peux pas danser.
Pourquoi ?
Non, j'ai mal à mon genou.
Mais Michel finit par se laisser tenter.
Allez, venez.
Elle rejoint la piste de danse improvisée devant la vitrine de viennoiserie.
On va y aller. Que j'ai pas été en boîte de nuit, c'est ouais. Plus de mon âge.
Vous étiez du genre à draguer, vous, hein?
Oh non, mais j'aime bien baver. Oh, ça vaut pas David Guetta, mais enfin.
Vous voulez un café?
Oh ouais, je veux bien le vrai.
Un petit shot de café, de quoi tenir jusqu'à la fermeture.
Bonjour madame.
DJ Baguette, jamais cuit, lui a pendant 4 heures fait bouger les clients de la boulangerie.
La DJ Baguette rentre chez lui dans la Drôme aujourd'hui. La boulangerie des Pieux était la 43e boulangerie française ambiancée par ce monsieur.
Ici, avec Marine Logeny, Ma France.
Il est 13h16, vous écoutez Ma France. Si vous êtes bénévole, si vous hésitez à le devenir, si vous êtes à la tête d'une association engagée en politique, pourquoi pas? Si plus généralement, vous êtes révolté par les inégalités de notre monde et que vous souhaitez mettre votre temps libre au profit de l'intérêt général, que tout simplement vous avez choisi comme bonne résolution 2026 de vous engager, ces 15 prochaines minutes vont vous éclairer et pourquoi pas vous faire basculer vers l'engagement. Elsa Dacosta, bonjour.
Bonjour Marine.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale d'Achoka France, c'est une ONG d'entrepreneurs sociaux, autrice donc d'un manifeste pour une culture de l'engagement intitulé « À vos cœurs vaillants ». C'est un livre optimiste, je dirais, dans lequel on imagine un monde où l'engagement devient la norme et où l'intérêt général passe au-dessus. J'ai envie de vous poser cette première question. L'intérêt général, c'est quoi? Et est-ce qu'il existe toujours?
Ah bah, c'est une très bonne question. La première partie du livre ouvre là-dessus en disant « alerte, presque enlèvement, où est passé notre intérêt général, puisqu'on le voit de plus en plus, et les événements géopolitiques quotidiens nous l'attestent, qu'on a plutôt tendance à valoriser l'intérêt particulier, les intérêts singuliers même des pays, que l'intérêt général. Donc c'est une notion qui est quand même assez difficile.
Ça a toujours été le cas ou...
Bah non, heureusement que non, puisque justement on a créé cet intérêt général au départ en se disant que c'est ce que je dis dans le livre, c'est-à-dire que l'intérêt général, c'est penser plus grand que soi. C'est évidemment trouver un bénéfice dans l'intérêt général pour soi, mais c'est aussi percevoir qu'on est constamment dans une notion de progrès et de voir comment les conséquences de nos actes peuvent impacter aussi les autres et de voir que nous sommes dans un système global.
Mais c'est inné ou ça s'apprend ?
Ah bah, moi, j'aurais tendance à vous dire que ça s'apprend, évidemment. Bah, ça s'apprend. Alors justement, c'est toute la dernière partie du livre qui est juste un appel à des solutions très concrètes, à prendre l'engagement au service de l'intérêt général dès le plus jeune âge et à tous les âges de la vie. Je prends un exemple tout bête. En France, vous avez 1 million de délégués de classe, 1 million par an, donc vos enfants, mes enfants, qui décident.
Vous l'étiez, je crois, d'ailleurs.
Je l'étais, et souvent dans l'innovation sociale, quand je pose cette question, très souvent, des gens qui acceptent d'épouser ces carrières-là sont d'anciens délégués de classe. Donc il y a une espèce de filiation assez logique. Néanmoins, vous constatez aussi que quand ces délégués de classe sont élus, il n'y a pas énormément de valorisation par l'enseignement, notamment dans le cadre de Parcoursup, où il faut attendre qu'ils aient parfois 18 ans, alors qu'ils sont peut-être délégués de classe depuis qu'ils ont 12 ans. Et c'est la même chose pour les conseillers municipaux juniors, c'est la même chose pour les délégués écologiques.
Ça, c'est une belle idée, les conseillers municipaux juniors.
Ah, mais c'est une super idée.
On a l'impression que ça ne prend pas, oui, c'est
alors
vrai.
Alors, ça, faut pas nuançons aussi, parce qu'il y a beaucoup de collectivités locales, notamment, qui doivent nous écouter, en plus, qui s'aperçoivent que chez elles, c'est le cas, et qui ne font pas comme un instrument marketing ou gadget ou clientéliste ou ce qu'on veut. Mais il y a une vraie logique, en fait, à valoriser les engagements qui soient faits au service du commun, donc au service de l'intérêt général, justement. Faire en sorte que tout le monde ait sa juste place dans ce monde, quoi, et puisse vivre de manière digne, surtout.
Et puis, il faut en parler aussi, parce que les médias, dans leur globalité, vous les prenez un peu à partie. Moi, je dis, ça ne prend pas, mais c'est peut-être parce qu'on n'en parle pas assez, ces initiatives.
Exactement. Vous savez, quand on cherche ces clés sous le projecteur, souvent, on les trouve pas. Donc, il faut déplacer le projecteur pour les trouver. Et pour rééquilibrer les représentations qu'on se fait du monde, il faut effectivement aller un peu plus au contact de ces engagés qui ne sont pas une manière d'être utopiste, pas du tout, puisque en fait, tous les jours, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui passent leur vie à transformer la nôtre, et il faut le mettre beaucoup plus en lumière. Ça ne veut pas dire ne montrer que ça, ça veut dire rééquilibrer les plateaux de la balance pour avoir une meilleure représentation de ce qui se passe réellement. Et la France regorge d'initiatives, de talents, des choses qui sont en train de se monter, des choses qui marchent depuis des années, dont on parle assez peu finalement.
Et cette notion d'intérêt général, on a eu quand même un exemple dans l'actualité récemment où ça a apporté ses fruits sur la loi Duplomb. Il y a eu une pétition qui a été lancée, qui a été écoutée. Bon, c'est un peu...
Ça a porté ses fruits. Oui, il y a eu 2 millions de personnes qui ont signé cette pétition, et heureusement, parce que ça a permis de sensibiliser le grand public à cette loi Duplomb. La réalité, c'est qu'en fait, ça n'a pas servi à grand-chose ensuite, puisque le président Emmanuel Macron a décidé de quand même continuer à aller dans le sens de cette loi.
Enfin, il y a l'intérêt général, donc évidemment, les pesticides, c'est prouvé par des scientifiques. Et en face, il y a aussi des agriculteurs. Est-ce qu'on peut les entendre, qui œuvrent à leur manière pour l'intérêt général?
Mais évidemment qu'il faut les entendre. D'ailleurs, on l'a vu récemment. Évidemment, le sujet, c'est pas de siloter les différentes parties prenantes d'une même problématique. Il faut mettre tout le monde autour de la table tout de suite et accompagner ces transitions. C'est ce que disent d'ailleurs les agriculteurs. Ils parlaient de revenus, d'une compétitivité internationale qui les met dans une précarité. Donc, et cette précarité, après, elle nous tombe dessus, puisqu'évidemment, ce n'est plus nourrir la France. Donc, quand on prend une problématique, il faut voir tous les aspects du problème, et c'est toute la difficulté de l'intérêt général, c'est de ne pas être court-termiste. C'est de penser aussi, alors, d'avoir des solutions qui se règlent, parce qu'il y a des urgences, il n'y a pas d'hierarchie des causes, mais il y a des urgences effectivement qui incombent, et de régler ces problèmes-là avec les parties prenantes, évidemment, en les associant, parce que c'est elles la plupart du temps qui ont des solutions. Je suis convaincue que beaucoup d'agriculteurs seraient ravis qu'on les accompagne de plus en plus pour avoir une production qui soit évidemment moins génératrice de prévalence de cancer, comme ça peut être le cas en France aujourd'hui.
Alors avec vous aussi, on aborde cette notion de l'engagement individuel. 51% des Français disent avoir fait au moins un don. Bon, c'est des chiffres qui datent de 2023. Ça veut dire quand même que l'altruisme est là. Et pourquoi il n'y a pas d'élan plus important? Quels sont les freins?
Je pense que les freins, c'est déjà le revenu de chacun. Et puis la philanthropie, on a tendance à la définir uniquement par les finances, par l'argent. Mais la philanthropie, c'est aussi donner de son temps.
Le temps.
Et c'est ce que je dis dans le livre également, de dire il faut valoriser cette notion du temps. Vous parliez des bénévoles, il y a 20 millions de bénévoles en France. Et quand vous êtes une association, ce qui est le cas, moi j'ai la chance de diriger une association, je peux vous dire que quand j'ai des gens qui gracieusement offrent de leurs compétences et permettent justement de doper les stratégies de mon organisation, c'est aussi valable que des personnes qui donnent financièrement de l'argent.
J'aimerais donc justement vous faire écouter un témoignage, Elsa Dacosta, sur les raisons qui nous poussent à nous engager, donner de notre temps, celui d'un citoyen qui a décidé donc de s'engager. Il est responsable d'une agence AXA au nord de Rouen. Il s'est associé au bureau du cœur et a mis à disposition gratuitement ses locaux chauffés quand les salariés ne sont pas là. Pierre-Alexandre Havard revient sur cette démarche simple et qui ne coûte pas grand-chose selon lui.
Alors moi je trouve ça normal, alors ça c'est un avis tout à fait personnel, mais je trouve ça tout à fait normal et tout à fait pertinent, quitte à avoir des locaux qui sont chauffés, on les utilise. C'est aussi une contribution, de mon point de vue, que des grands groupes comme le nôtre, comme AXA, puissent aider ce genre d'association. Nous ça nous coûte pas grand chose, et ça permet d'aider, et on voit vraiment les bénéfices, notamment sur des périodes comme on a eu là, sur les 2-3 dernières semaines où il fait très froid. On se dit que cette personne-là, la personne qu'on a actuellement, c'est une jeune femme qui a une vingtaine d'années, qui a l'âge de ma fille. Et on se dit, si cette personne-là, elle est dehors, à la rue, ou dans des foyers, ça peut être un peu compliqué, par rapport à l'effort que nous on fait, c'est très très peu, et par rapport à l'aide que ça peut lui apporter, là c'est vraiment bénéfique.
Elsa Dacosta, il est intéressant ce témoignage à plusieurs égards.
Il est plus qu'intéressant, il est magistral, et puis surtout moi je le trouve extrêmement émouvant, parce qu'effectivement ce qu'on entend c'est nous ça nous coûte pas grand chose, et en fait vous savez l'histoire de coût c'est toujours une valeur perçue. Quand on a les choses dont on dispose au quotidien, on finit par oublier, et en fait quand on ne les a plus, c'est là qu'elles nous manquent. Et il s'est bien aperçu justement qu'il fallait transférer espérer cet usage-là pour pouvoir héberger des gens qui ont besoin d'être protégés.
Et il dit aussi, elle a l'âge de ma fille. Il y a souvent un effet miroir dans l'engagement.
Alors, il y a un effet miroir, c'est super intéressant cette question, effectivement. Il y a un effet miroir, et parfois c'est ce qui m'agace, c'est qu'il faut avoir presque une épiphanie personnelle pour d'un seul coup se mettre à militer dans une association, pour ses droits, etc. C'est pour ça qu'il faut cette culture de l'engagement à tous les âges de la vie, et dès le plus jeune âge, pour bien comprendre que les droits des uns, enfin, une injustice qui est faite à un est faite finalement au plus grand nombre, c'est ce que dit Montesquieu aussi. Donc il faut garder en tête le fait que demain ça peut nous arriver, en fait.
Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas été confronté au cancer du sein, peut monter une association d'aide aux femmes victimes.
Mais j'espère bien. Vous imaginez ce que ça voudrait dire de notre empathie ?
Je vais dans la caricature.
Et vous avez raison,
exprès.
Mais j'aime bien cette question un peu provoque aussi, parce que vous imaginez s'il fallait qu'il nous arrive tous des tuiles pour être conscient qu'en fait, il faut militer pour ces droits-là. Ça voudrait dire qu'il n'y a aucune empathie dans le monde. Non, c'est pas possible, ça. Moi, j'y crois pas une seule seconde.
Autre aspect dans votre manifeste pour une culture de l'engagement, il y a le fait de devoir s'éloigner de figures héroïques.
Oui. Ouais, ouais.
Ça, j'aime bien. Bon, vous citez évidemment l'abbé Pierre.
Bien sûr.
Qui a été une déflagration.
Complète. Oui, qui a été une déflagration pour notre milieu, parce qu'effectivement, bah, on a découvert, on ne va pas revenir sur le dépôt de plainte, tout le monde est bien conscient de ce qui s'est passé, mais ça prouve aussi qu'il y a une forme parfois de gourouisation, d'icônes comme ça, de l'engagement, et on s'aperçoit finalement que l'engagement est quand même quelque chose de très collectif, même s'il faut qu'il y ait des figures emblématiques qui fassent des percées, ça a été le cas pour un Coluche, par exemple. Heureusement que Coluche a eu ce coup de gueule, ce coup de colère pour les Restos du Cœur. Aujourd'hui, on peut quand même être très fâché du fait que 40 ans après, les restos existent encore, alors que Coluche les voulait provisoires.
C'est ce que vous écrivez. Vous écrivez les Restos du Cœur avec une croissance à 3 chiffres, à faire rêver toutes les start-up d'alimentation saine et durable, sauvées notamment par Bernard Arnault, qui a débloqué 10 millions d'euros pour aider l'association. On perçoit un peu d'humour noir pour ce constat juste. Nous avons décidé de pérenniser ce qui était au départ provisoire, palliant une urgence sociale. C'est ce que vous écrivez.
Bah oui, mais je prends ces chiffres-là. C'était 3500 repas par jour. Aujourd'hui, on a plus de 390 000 repas par jour. 50% des bénéficiaires des Restos du Cœur ont moins de 25 ans. Mmh. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça dans notre pays ? Non, je crois pas. Mmh. Donc c'est effectivement un des coups de gueule. Et quand je parlais de la croissance à 3 chiffres, c'est parce que quand j'ai démarré dans l'innovation sociale, j'étais assez surprise que beaucoup de financeurs viennent me voir en me disant « Oh, l'année dernière, je finançais 10 000 repas par jour. Cette année, c'est 20 000. » Enfin, pardon, mais on peut pas être heureux de cette croissance-là, en fait.
Oui, bien sûr.
Parce que les éléments qu'on a de comparaison sont des éléments chiffrés d'entreprises, entre guillemets, capitalistes traditionnelles, lucratives. Or là, on est dans l'innovation sociale pour réparer un problème de société.
Donc il faut agir plus en amont, bien
à
évidemment.
La racine.
Merci beaucoup, Elsa Da Costa. Malheureusement, le temps nous manque, mais il y a plein de questions à aborder dans votre ouvrage Manifeste pour une culture de l'engagement à nos cœurs vaillants. D'ailleurs, si on veut s'engager, on s'adresse tout simplement à notre mairie, par exemple. On vous appelle.
Qu'on m'appelle.
Et un bon moyen, c'est aussi d'aller directement, par exemple, à la mairie de votre ville ou de votre village. Merci beaucoup, Elsa Da Costa.
Ici, ma France.
Allez, comme tous les jours, on termine avec le rendez-vous anti-arnaque d'ici C'est pas vrai. Audre Azo, vous nous alertez sur l'arnaque à la double détente. Elle fait des ravages et quand on se fait arnaquer deux fois, coup sur coup, Aude.
Oui, je vous raconte cette fois l'histoire de Florent. C'est un collègue, il m'a raconté ça l'autre jour. Florent reçoit un jour un texto pour un PV de stationnement. Il clique sur le lien qui lui est proposé et là, il tique un peu. Il me dit « je trouvais que le site était bizarre ». Donc il ne fait rien, il ferme tout. C'est là qu'arrive la deuxième arnaque, la seconde détente. Le soir même, son portable sonne. « Je suis votre conseiller bancaire », dit le monsieur au bout du fil. « Est-ce que vous n'auriez pas cliqué ce matin sur un site un peu étrange ?» Florent répond que oui, et le banquier, enfin le faux banquier, lui dit qu'un prélèvement de 2400 euros est en cours sur son compte en banque et qu'il faut réagir très vite. Il lui envoie une notification sur son téléphone. Florent clique et patatras, il ne voit pas qu'il est en train de valider le débit de 2400 euros.
Alors, est-ce que Florent a pu se faire rembourser, Aude ?
Il a réussi, effectivement, et il a même réussi à faire arrêter le voleur. Je vous raconte. Florent comprend son erreur. Il contacte sa banque, la vraie cette fois. La banque refuse tout net de le rembourser. Monsieur, vous avez validé ce paiement. Vous êtes fautif. Pas de remboursement. Mais là où Florent a beaucoup de chance, c'est que le voleur n'était quand même pas bien malin. Sur le débit, Florent voit écrit 2400 euros Airbnb. En fait, son argent a été utilisé pour payer une réservation. Florent appelle donc Airbnb. L'entreprise le rembourse illico et cerise sur le gâteau, elle appelle la police. Et la police s'en va cueillir le malfaiteur dans le chalet savoyard qu'il avait réservé, pris la main dans le sac.
Merci beaucoup Aude Razzo, votre rendez-vous anti-arnaque à retrouver tous les jours à la fin de l'émission Ma France et sur ici et ici.fr. Je vous retrouve demain et je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute d'ici au programme musique. Bonne humeur et bon plan près de chez vous.
L'hiver s'étire et vos valises rêvent secrètement de retrouver le soleil.
Voyage, voyage!
Pas de panique! Écoutez ici, dès le 26 janvier, on vous offre 10 000 euros de vacances.
Ici Occitanie. Tous les jours à vos côtés.
Un trial de moto à Toulouse et un stage d'art floral à Grenade. Ici Occitanie à vos côtés, c'est maintenant.
Pascal Vesbroux.
Accrochez-vous au guidon. Le célèbre trial indoor international revient faire vibrer Toulouse pour sa 35e édition au Zénith de Toulouse vendredi. Un show lumière époustouflant où les meilleurs pilotes mondiaux défient carrément les lois de la gravité. 3 heures de pur spectacle entre adrénaline et décors grandioses. L'événement idéal pour s'émerveiller en famille devant une maîtrise de la moto absolument hors norme. C'est le trial indoor international, c'est vendredi soir et c'est au Zénith de Toulouse. Et puis le foyer rural de Grenade vous propose mardi 20 janvier, c'est mardi prochain, un stage d'art floral ludique et créatif pour tous. Sous l'œil expert d'Isabelle Claude, vous allez apprendre à composer de magnifiques créations végétales. Un atelier d'environ 1h30 pour façonner votre propre œuvre et tout le matériel est sur place. Vous pouvez repartir fièrement avec votre composition unique et éco-responsable. Bloquez vite votre agenda, c'est le 20 janvier à 19h au foyer rural de Grenade et la réservation est obligatoire. Ici Occitanie à vos côtés, oui, on revient dans une heure.
Ici Occitanie,
actu local, musique et bonne humeur.
Thank you.
Étienne Dao, en 1986, en plein dans sa période pop électro, Ici Occitanie, c'était Épaule Tatou. Ici Occitanie, c'est aujourd'hui jeudi et c'est l'occasion de retrouver dans quelques minutes l'écho d'ici avec Delma Garcia, qui est responsable com chez Altiservice, une société qui gère trois stations dans les Pyrénées, dont Saint-Lary. Et pour la musique, les américaines Fornon Blondes se posent des questions, what's up, et Julien Lib voudrait faire autrement, nouveauté Ici Occitanie.
Cherche encore quelque part un peu de nous. C'est ton regard qui m'aide parce que c'est flou. Il faut qu'aujourd'hui tu comprennes que j'ai des doutes. Que les non-dits se transforment en j'en ai rien à foutre. Et sincèrement, même dans les échecs, on garde le pont. Et même si notre histoire un jour a vu le soleil dans mes souvenirs, on a trop perdu de temps. J'aimerais que le vent se lève. Si seulement, si seulement, autrement. Mais si seulement on s'était dit les choses, si seulement il y avait eu les mots autrement. Si seulement on s'était dit les choses, si seulement il y avait eu les mots autrement. Si seulement. Dessiner nos sourires. Je rêve du parfum de tes soupirs. C'est pas normal, non c'est pas normal. De faire semblant, seul on s'en sort mal. On n'a plus le temps. Je vis dans tes repères, j'ai des larmes de pierre. Je veux qu'on se souvienne que le silence nous perd. Je veux que tout s'arrête et que le vent se lève. Je viens de faire mes aveux. And I can't feel high, and I scream from the top of my lungs.
and my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination.
Ici Occitanie, les chroniques, les conseils, les bons plans. À tout moment.
Ici Occitanie, il est l'heure de retrouver les acteurs de l'économie locale qui racontent comment ils contribuent à l'éco d'ici.
Bonjour Dalma Garcia.
Bonjour.
Merci d'être là ce matin. Vous êtes la responsable communication d'Altis Service, société qui gère Font-Romeu et Saint-Lary dans les Pyrénées. D'abord, une question sur Noël. Est-ce que les chiffres ont été bons et est-ce que vous attendez à de bons chiffres aussi, de la bonne fréquentation pour février?
Alors effectivement, nous avons eu de très bons résultats pour les vacances de Noël. Toutes les réservations étaient complètes sur la station de Saint-Lary et pour les vacances de février, on attend les mêmes chiffres.
Une question sur la sécurité, parce que c'était certes dans les Alpes, mais 6 skieurs sont décédés à cause d'avalanches. Est-ce qu'il y a des risques en ce moment dans les Pyrénées? Est-ce que vous faites de la prévention?
Alors forcément, quand il y a de grosses chutes de neige, on peut toujours s'attendre à des risques d'avalanche, mais on est constamment en train de faire des exercices et de faire de la prévention pour pouvoir être
Avec un exercice hier, je crois.
Exactement, on a fait un exercice hier sur le domaine de Saint-Lary et ça permet toujours de garder les équipes dans le bon fonctionnement et pouvoir permettre d'agir en cas d'avalanche.
Vous essayez de faire venir de plus en plus de skieurs par des moyens plus écologiques. Vous avez lancé l'offre Skigo il y a, je crois, un peu plus de 5 ans tout de même. C'est un forfait qui permet pour une quarantaine d'euros de prendre le bus à 7h du matin de Toulouse, d'arriver au pied des pistes à Saint-Lary, et ça inclut le prix du forfait et des réductions sur la location. Est-ce que ça marche, ce forfait? Est-ce que ça séduit?
Alors forcément, c'est un produit qui séduit énormément, puisque tout simplement, le produit Skigo, c'est un transport en bus pour aller skier dans notre station, la plus grande station des Pyrénées françaises. Toulouse, c'est une ville étudiante, proche des Pyrénées. Nous sommes une société de remontée mécanique, et pour nous, c'était important de pouvoir offrir à la clientèle toulousaine du ski à moins de 2 heures du...
Mais combien de personnes et d'étudiants ont utilisé Skigo?
Alors, sur les chiffres de l'année dernière, on était à peu près à 4000 personnes. Ça représente environ 70 bus. Et ça représente pratiquement un chiffre de 75 000 euros sur la saison d'hiver.
Mais vous vous y retrouvez, parce que à la journée, le forfait Saint-Lary, c'est 54 euros. Là, c'est 42 pour les adultes avec le bus, le forfait et une réduction sur les locations.
Exactement. Alors, évidemment, plus il y a du monde et plus forcément ça fait du chiffre, donc pour nous c'est totalement rentable et on fait ce partenariat avec les Voyages du Clos depuis, comme vous l'avez dit, 5 ans, et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien et très apprécié par la clientèle toulousaine.
Est-ce que à terme vous seriez pour ne pas pouvoir accéder en voiture dans les stations de ski et pouvoir venir qu'en bus par exemple? C'est compliqué à mettre en place à Saint-Lary ou Font-Romeu.
On va dire que c'est dans l'idéal, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait s'envisager. Mais c'est vrai que c'est très compliqué d'interdire ce moyen de locomotion. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on met en place ce genre de mobilité douce et de permettre de se déplacer sur les stations par ce moyen de transport.
Et je précise qu'il faut réserver parce que c'est une offre modulaire et je mettrai toutes les infos sur l'appli ici. Merci Dalma Garcia, vous êtes responsable communication d'Altis Service, société qui gère notamment Saint-Lary, où il y aura, je le précise, les 23 et 24 janvier, le festival électro Garros Nouf.
Ici Occitanie.
I've gotta take a little time, a little time to think things over. Lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world. Clouds, I see love shine. It
Vos chansons préférées toute la journée,
c'est ici Occitanie.
Occitanie, c'était un extrait de son album Revolver en 2024. Marc Lavoine, très attaché au protocole. Actu, musique et bonne humeur. L'actu, c'est bien sûr à 14h. Mais d'abord, un vrai souvenir ici Occitanie, celui de Roberta Flack, qui fait une curieuse déclaration. Killing me softly with his song. A tout de suite.
Drumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
just kept right on strumming my fate with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Au cœur du Midi Toulousain, ici Occitanie.